celui-ci, voilà. Normalement, celui-ci, ça y est, il fonctionne. Donc voilà. Voilà, on peut commencer.
D'accord.
Donc, je vous ai dit hein, qu'il s'agissait d'un portrait sonore
Oui,
d'Orléans à
tout à fait.
partir d'un portrait de ses habitants. Donc, je vais commencer par vous demander depuis quand vous habitez à Orléans ou dans l'agglomération.
Alors, en fait, je suis arrivée pour mes études à
Oui.
l'université
Oui.
pour la première fois. Alors, c'était en octobre, il faut pas que je fasse d'erreur, parce que ça remonte quand même à quelques années. En octobre 71,
Ouais.
oui, c'est ça, en octobre 71, donc à la fac, qui est maintenant d'ailleurs, c'était moi j'étais à la fac de lettres qui était encore dans des préfabriqués,
Oui.
à l'emplacement où est maintenant le
Le
STAPS.
Staps,
Donc,
tout près d'ici, en
oui,
face, hein,
si on
quasiment.
m'avait dit à ce moment-là que j'habiterais 40 ans plus tard juste en face,
Oui.
je l'aurais sûrement pas cru. Moi, j'habitais dans une petite ville à 50 km d'Orléans jusqu'à cette date-là, en fait. Hein.
Donc vous étiez dans la région, hein.
Tout à fait,
Oui.
tout à fait. Moi, j'étais arrivée de Paris, j'avais 5 ans et demi,
Oui.
dans cette petite ville du Loiret, donc.
Ouais.
Et je suis arrivée à l'université, donc en octobre 71. Là, j'ai connu mon futur mari.
Oui.
Et voilà, nous sommes restés presque intégralement depuis à Orléans.
À Orléans.
À part quelques mois où il a fait son service militaire. En fait, on s'est mariés 3 ans plus tard.
Oui.
Et il a fait son service militaire à Bourges. Et là, on est restés cette durée-là
À Bourges.
ensemble à Bourges. Et on est revenus
Oui.
aussitôt après à habiter à Orléans.
D'accord. Et vous avez habité dans différents coins, quartiers d'Orléans?
Oui. Notre première résidence à Orléans, quand nous sommes revenus, enfin après nos 3 années à l'université, c'était, comment expliquer? C'était résidence du Clos Gentil, ou c'était rue du Clos Gentil, rue Guignegot. Ça y est, je me souviens maintenant parce que
Ouais.
j'ai vu la pancarte il n'y a pas longtemps en passant devant,
Ouais.
rue Guignegot. Une petite résidence, on louait là un F2.
Oui. Et ça, c'était
Et
dans quel quartier?
alors, rue Guignegot.
Ouais.
Alors, c'est le quartier, c'est pas loin de l'Hilaro. C'est une
Ah
petite rue en fait qui traverse la Nationale 20
oui.
vers la passerelle
D'accord.
piéton qui passe au-dessus. Et à ce moment-là, il y avait un autopont tout près, qui a été détruit quelques temps plus tard pour faire la trémie. Donc là, nous avons habité en 2 petites années. Et ensuite, nous avons acheté un appartement dans une résidence qui était Faubourg de Bourgogne,
Oui.
qui s'appelait résidence alors c'était rue des Préfleuries.
Oui.
Ou rue des. Je finis par tout mélanger parce
Mais
que
je vois
nous avons eu
exactement.
des adresses très curieuses. Notre toute première adresse, donc à Bourges, c'était. Ça devait s'appeler Préfleury. Ensuite, nous avons habité cette petite résidence rue Guingo qui s'appelait Clos Gentil. Et ensuite, voilà, c'est ça. Nous habitions rue du Clos Fleury, résidence Les Séquoias,
Et je vois
Faubourg de Bourgogne.
exactement où c'est, parce que moi j'habite rue Saint-Marc,
Ah oui, bah
donc tout
effectivement,
à
vous êtes
côté,
effectivement tout près.
et je connais des
Tout à fait.
personnes qui habitent
Ah
exactement dans cette
d'accord.
résidence-là, donc
D'accord.
je vois très bien, oui.
Alors là, nous avons acheté un F5 parce
Ouais.
qu'on avait déjà une petite fille. On s'était dit que bon, peut-être qu'il y en aurait d'autres, donc il valait mieux prévoir un petit peu plus grand. Et le fait est qu'on en a eu 2 autres dans cet appartement-là. Et nous sommes restés nous avons aménagé là, je crois, de décembre en décembre 77.
Oui.
Nous sommes restés jusqu'en août 85 dans cet appartement que nous avons revendu pour acheter cette maison
Dans le
ici.
quartier Saint-Marc, et ensuite
Voilà, c'est ça.
vous êtes arrivé ici.
Voilà.
D'accord.
Donc, après 8 années là-bas, où nous étions très bien d'ailleurs, au bord de
Oui.
la Loire, c'était très très agréable.
Oui.
Mais bon, c'était un appartement en étage, avec 3 petites filles. Voilà, qui on aspirait à avoir un jardin pour les faire courir.
Donc vous êtes arrivés ici il y a combien
Alors,
de
nous
temps?
Sommes arrivés ici en août 85.
85.
Avec trois petites filles qui avaient 9 ans, 6 ans et 10 mois.
Oui.
Et qui sont maintenant, pour deux d'entre elles, maman déjà.
Oui. Je vois que vous avez des balançoires et des toboggans. Vous êtes bien équipés dans le jardin.
Oui, oui, oui. Le fait que nos enfants habitent aussi à Orléans.
Oui.
C'est un hasard, mais bon. Et du coup, les petits sont souvent ici.
Et est-ce qu'ils habitent, les enfants habitent aussi à Olivet ou
non,
dans d'autres coins?
Non, les deux aînés habitent à Fleury.
Oui.
Et la toute petite dernière qui a 2 mois habite à Orléans, presque Orléans Centre, vers l'avenue Dauphine.
Oui.
Donc c'est vraiment localisé, hein, oui. Les 300, tout près.
Oui.
La dernière finit ses études par un stage. Bon, elle est à Paris, mais enfin, c'est pas très loin non plus.
Oui, non, ça reste vraiment proche. Hein.
Donc, c'est pour ça qu'il y a des équipements dans le jardin
Je vois.
Pour les petits.
Et donc, vous êtes ici depuis 85. Alors, est-ce qu'on peut justement parler un petit peu du quartier, enfin d'Olivet et puis de cet ensemble ici où vous habitez?
Oui, alors ici c'était une propriété privée
oui.
à l'origine et c'est un lotisseur en fait qui, oui. a acheté qui a acheté les terrains et qui a fait construire les maisons.
Oui.
C'est-à-dire que les maisons ont été vendues avec le terrain tel que. Mmh. Alors au départ ça avait été prévu pour être un lotissement de très grand luxe avec des prestations extraordinaires dans les maisons. Les cheminées tout installées, choisies par les acquéreurs. Il y avait plusieurs cheminées au choix, des carrelages au choix. Il y avait beaucoup de... Et puis finalement, ils se sont aperçus qu'ils avaient vraiment visé très très haut.
Ouais.
Et qu'au prix où ils espéraient vendre les maisons, ils ne les vendaient pas.
Ils avaient un petit peu de mal. Ouais.
Donc, ils ont commencé... bon, ils en ont vendu une au début. Et puis, ils devaient terminer les prestations, en fait, après. Mm-hmm. Une fois que les gens auraient choisi. Et puis, finalement, ils ont retiré tous les choix. C'est-à-dire, nous, la première fois qu'on est venu, c'est très curieux. Parce qu'on a essayé de vendre notre appartement à Orléans pour acheter une maison et un jardin. On n'avait pas spécialement de quartier de prédilection, on visitait tout ce qui nous semblait nous correspondre. Et puis, on a visité. Alors, il fallait vendre l'appartement avant, bien sûr, parce qu'on ne voulait pas prendre de pré-relais, parce que financièrement, on se disait, on ne sait jamais combien de temps ça peut durer. Donc, nous avons visité cette maison une première fois. Il y avait une maison témoin, avec justement exposé dans la salle à manger. Tous les choix, oui. les cheminées, les carrelages, oui. enfin, ça nous semblait somptueux, c'était formidable. Puis de pouvoir choisir en plus, c'était un vrai plus. Et puis, nous avions la possibilité de signer le bon de commande de la maison et la personne qui démarchait, enfin qui était installée ici d'ailleurs, précisait, c'était écrit dans le contrat, qu'on pouvait mettre une clause de si on ne vendait pas l'appartement, on pouvait se désister sans frais, sans problème. Donc on avait signé pour cette maison-là, parce que c'est celle-là qui nous plaisait déjà sur les 8. Mmh. Et nous n'avons pas vendu l'appartement dans le délai imparti.
Oui.
Donc nous avons été obligés de renoncer. Et on était très malheureux. Mais on en a visité d'autres, on a continué notre projet de recherche. Et puis, nous avons vendu notre appartement. Enfin, lorsque nous avons trouvé l'acquéreur de l'appartement, nous sommes revenus voir ici. Mais c'était quelques mois plus tard. Oui. On n'avait aucun espoir que la maison qu'on voulait soit encore libre. Et nous avons retrouvé la même personne qui était encore installée ici parce qu'il restait plus que 2 maisons sur les 8. Mmh. Et celle-ci avait été vendue. Mmh. Et le monsieur avait été muté avant de l'habiter.
Ah.
Et donc, nous avons retrouvé notre maison qui nous attendait.
C'est formidable.
Donc, nous avons retrouvé notre maison qui nous attendait. Et voilà, ça s'est fait très vite. Ouais. On a signé, on a aménagé 2 mois après. Ouais. Donc,
Et vous recherchiez spécifiquement à Olivet ou pas
Ça
forcément?
faisait partie
Oui.
des endroits que. Mais c'est surtout parce que mon mari, à cette époque-là, travaillait au BRGM.
Oui, ah oui, c'est
Et
tout à côté.
nous habitions donc Faubourg de Bourgogne. Et c'était une période de. Ça devait être nos premières prises de conscience écologique.
Oui.
Parce qu'il prenait un car spécial que le BRGM avait mis en service pour ses salariés à cette époque-là. Ils avaient plusieurs lignes de tournée. Et il prenait ce car spécial et il passait là tous les matins
Ah,
et tous les soirs.
d'accord.
Et il a vu construire les maisons et
Et
il se disait, ce lotissement, ça a l'air
c'est pour nous.
vraiment, voilà. Et on y habitait en fait 2 ou 3 ans après.
C'est
Voilà.
vrai que c'est formidable ici. On a l'impression d'être à la
Ah oui, tout
campagne.
à
C'est
fait,
d'un
tout à fait.
calme
C'était
magnifique.
oui.
Et puis, comme je suis arrivée un petit peu en avance, j'ai descendu. Là, on arrive
Sur le Loiret
sur le
qui passe en
Loiret.
bas,
Ah
oui,
oui,
tout
c'est
à fait.
vraiment très, très joli.
C'est
Très,
vrai que
très joli.
la première fois que nous sommes venus, bon, mon mari voyait ça tous les jours, mais on ne savait pas du tout comment c'était à
À
l'intérieur, hein, parce qu'il
l'intérieur.
voyait ça de la rue
Oui,
en passant.
oui.
Et la première fois que nous sommes venus, le faubourg de Bourgogne, à ce moment-là, il n'y avait pas la rocade qui permettait de contourner. Et le faubourg de Bourgogne, c'était devenu vraiment infernal,
Ouais.
la nuit en particulier, les motos.
Ouais. C'est un
Et
gros axe de passage. Ouais.
c'était à ce
Ouais.
moment-là, ça l'est moins maintenant, mais c'était à ce moment-là un très très gros axe avec des camions, des voitures, des
Ah ouais.
livraisons le matin de bonne heure, des motos. Et puis ça a été un comble le jour où ils ont mis un feu tricolore juste en bas de la
Ah oui.
résidence.
Oui.
Ou alors là, il y avait entre les bruits des
Les
freins des
freins.
camions et les motos qui repartaient en pétardant, enfin, ça devenait vraiment. Plus la pollution, c'était quand même un élément
Oui.
qui nous
Oui.
souciait déjà à ce moment-là.
Oui.
Parce que nous avions un balcon à l'arrière et un balcon sur le devant. Et le balcon de l'arrière donnait sur le. Enfin, bon, c'était très en retrait, mais enfin, il
Oui.
était du côté du faubourg de Bourgogne et on voyait nettement la différence entre ce qui se disposait sur le balcon de
C'est
l'arrière
vrai.
et sur
Ah
le
oui.
balcon de l'avant.
Ah
Et
oui.
donc, on avait eu très, très rapidement une prise de conscience à ce niveau-là, vis-à-vis de nos filles,
Bien
qui étaient
sûr.
toutes petites.
Oui.
Et on avait vraiment envie, justement, de les faire vivre plus dans de la verdure que dans du béton et des gaz d'échappement,
Ouais.
surtout, hein. Donc voilà, on avait des critères très précis
Oui.
de recherche, mais on n'était pas spécialement
Oui.
attaché à un endroit,
Oui.
parce que d'abord, nous ne sommes Orléanais de souche ni l'un ni l'autre.
Oui.
Donc déjà, nous ne connaissions pas beaucoup les environs. Hein. On parlait beaucoup d'Olivet parce qu'on disait c'est calme, c'est joli, c'est la campagne. Bon. On en entendait parler, mais on ne connaissait pas plus que ça. On venait souvent quand même sur les bords du Loiret le dimanche avec
Pour
nos
se
filles
promener.
faire des
Ouais.
promenades. Donc, mais c'est tout, le centre-ville, on ne le connaissait pas. Hein. Puis à ce moment-là, ce n'était pas aussi joli que maintenant. En plus, c'était vraiment un petit
Le bourg.
bourg, c'était pas joli du tout.
Ah oui.
Hein. Ah non, c'était vraiment. Mais même en 85 encore, hein, quand on a acheté, c'était encore. Bon, il y avait un centre-ville tout à fait médiocre. Hein.
C'est vrai.
Et ça s'est bien arrangé petit à petit, et puis beaucoup récemment.
Alors justement, je voulais vous demander un peu les avantages et les inconvénients du quartier. Les avantages, vous
Oui,
venez de me
les
les
avantages,
dire. Et puis
oui.
quand on regarde autour, ils sont assez évidents.
Oui, c'est vrai que c'est la verdure, c'est calme,
C'est ça.
et ça se résume comme ça. Hein.
C'est
Ça
ça.
se résume comme ça. Alors, les avantages induisent les inconvénients finalement.
Oui.
Hein, c'est que bon, on n'a aucun commerce autour,
Ouais.
et ça
Ouais.
c'est un peu gênant.
Ouais.
Il faut prendre la voiture mais on a la chance maintenant d'avoir une station de tram tout près, vraiment
Oui.
à 5 minutes à pied.
Oui.
Donc ça, c'est un vrai bonheur. Le tram pour nous a été vraiment parce que le bus était. Bon, c'est pas
Pas
comparable, hein,
pratique et ouais.
c'est absolument pas comparable.
Ouais.
Nos filles, quand elles prenaient le bus, parfois elles attendaient longtemps, on n'était jamais tranquille, c'était toujours au bord de la route. Rue de la Source, là, il y a un très 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 fort passage de
Oui.
voitures, et à l'époque de bus, beaucoup.
Oui.
Et les trottoirs sont très étroits, il n'y a pas de station de bus, hein, c'est juste un petit
Oui.
poteau qui indiquait l'endroit du passage du bus. Donc bon, quand elles ont commencé à prendre le bus toutes seules, elles n'étaient pas bien grandes et on n'était quand même jamais tranquille. Le bus, bon, il est toujours, il peut être coincé par la circulation, enfin c'est pas comparable, hein. Alors que pour nous qui sommes quand même assez excentrés, c'est pas isolé, on peut pas dire ça, hein,
Non.
c'est pas, on n'est pas à
Non.
50 km en pleine campagne, mais on n'a pas autour, on a une pharmacie,
Oui.
ça c'est déjà
Oui, je l'ai vu
beaucoup.
en arrivant, effectivement, juste à côté.
Elle y était déjà lorsque nous
Oui.
avons acheté, et c'était vraiment, nous avons un médecin généraliste qui est juste à côté, la pharmacie en sortant, voilà. C'est
C'est essentiel,
un
oui.
plus,
Oui, tout
hein.
à fait.
Donc, mais par contre, bon, il n'y a aucun commerçant. Avant, bon, maintenant, avec le tram, il y a eu un tout petit centre là qui a commencé à s'installer vers le nouveau
Oui,
quartier, la Larchette. Bon,
oui.
tout ça a créé un petit pôle. Bon, il y
Oui,
a,
je vois où.
mais nous ne sommes pas encore. Concernés, hein. On n'a pas encore ça à l'esprit. Donc pour nous, c'est la source ou Olivet.
Voilà, c'était ce que je voulais vous demander. Du coup, vous, quand vous allez faire vos courses, vous allez
Ah ben, soit à la source, soit à
Ouais,
Olivet. Hein,
d'accord.
on
Avec
est
une
un peu plus près de la
distance.
source, hein, puisque vous pourrez regarder en sortant, en fait, la pancarte, le poteau indicateur Orléans, il est à quelques mètres
Oui.
là de l'entrée, et c'est tout de suite Orléans-la-Source là. Donc on est plus près de la source que d'Olivet. Mais bon, ça dépend aussi quelle course, hein,
C'est ça.
parce que pour les petits commerces, on va indifféremment. Pas indifféremment, ça dépend ce qu'on va chercher. Pour certaines choses, on se contente d'aller à la source, c'est plus près. Pour certaines choses, quand on est un peu plus exigeant, on va jusqu'à Olivet.
Oui, à
Sinon,
ce moment-là, au centre d'Olivet,
voilà,
les petits
centre-bourg,
commerces du
voilà,
bourg, oui.
puisqu'il y a tout, enfin vraiment tout le nécessaire.
Puis un marché aussi.
Voilà,
Vous allez au marché.
on va peu au marché
Oui,
d'Olivet, on va plus
d'accord.
au marché à Orléans.
Ah oui,
On va
oui.
très peu au marché à Olivet, déjà parce que c'est le vendredi après-midi et que bon, moi je suis retraitée maintenant, mais pendant longtemps je travaillais, donc et puis lorsqu'on sort, qu'on a des enfants, on n'a pas forcément le temps de passer par le marché parce qu'on se dépêche d'aller les récupérer, qui chez la nourrice, qui au collège, qui à l'école, enfin bon, donc c'est toujours un petit peu la course en sortant. Et une fois qu'on a récupéré tous les enfants, on n'a pas envie de retourner au marché, surtout avec les enfants fatigués, énervés, enfin bon, donc le marché, j'ai jamais pris l'habitude de ce marché-là.
Et à Orléans, vous alliez auquel?
Alors nous
Vous allez
allons
auquel?
beaucoup le samedi matin au marché du Quai du Roi.
Oui, là où, tout près de là où vous habitiez avant.
Voilà,
Voilà.
petit pèlerinage.
Oui.
Et surtout parce que c'est très agréable, parce que l'endroit est joli, que c'est un vrai marché, avec des marchés de producteurs, c'est très, très,
Ouais, je le
vraiment.
connais bien. C'est là où on va tous les samedis aussi.
Et
Oui.
alors, quand on n'a pas le temps d'aller le samedi, on va le dimanche matin au marché de la
À la
Madeleine.
Madeleine, c'est ça. C'est ça.
Et puis moi, il m'est arrivé aussi souvent je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, il faudrait que je comprenne, d'aller au marché de la source le jeudi matin. Alors, depuis longtemps, je n'y suis pas allée, mais pendant longtemps, j'y suis allée
Oui.
régulièrement, ce qui m'étonne parce que je travaillais, donc je suppose que j'y allais pendant les vacances. Voilà, parce que je ne vois que ça. Je faisais partie à l'époque de la chorale de la source et j'avais beaucoup de copains et de copines à la chorale qui allaient à ce marché à la source le jeudi matin. Et donc je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à y aller. Et là, depuis quelques années, on va donc au marché du Quai du Roi et
Oui, il est formidable.
c'est un
Il est...
marché et une promenade en même temps
Ouais.
avec le canal et la Loire derrière.
Oui,
Enfin, c'est
c'est vraiment
vraiment.
joli, c'est
Puis c'est
vrai.
vrai qu'en plus, depuis que les abords ont été refaits,
Ça change tout, hein.
bon,
Ça change
c'est.
tout.
Ah oui, ah oui. Vraiment, c'est un plaisir d'aller là-bas. Vraiment.
Donc, en fait, c'est ça, c'est vous allez au marché au Quai du Roi, au bourg, à Olivet, selon
Oui,
les courses que vous allez à faire, et
voilà.
puis dans les grandes surfaces, j'imagine, à la
Oui,
source,
tout à
voilà,
fait.
pour
Ou à Auchan Olivet.
ou au champ Olivet,
Nous avons
voilà.
à peu près, je pense à équidistance, à peu près Auchan Olivet
Oui,
et
et
Leclerc,
Leclerc,
qui est aussi Olivet d'ailleurs,
oui.
bien qu'il soit plus sur le territoire
Oui,
d'Orléans-la-Source.
mais vous
Mais
êtes vraiment
c'est
entre les
aussi
deux.
Olivet, puisque la zone des provinces où se situe ce Leclerc est à Olivet.
C'est ça. Vous allez à Orléans,
Ou
au centre-ville, beaucoup.
beaucoup plus finalement qu'au centre d'Olivet.
Oui.
Ben oui. Oui, parce que déjà mon mari travaille centre-ville,
Oui.
donc ça fait un pôle. Bon, lui, il est de toute façon Orléans-Centre toute la journée. Et puis finalement, bon, quand on veut à la fois faire un peu de lèche-vitrine, de shopping, de promenade, il y a vraiment tout, quoi. Donc,
Oui. Donc vous y allez très
très
régulièrement.
régulièrement. Et puis le tram a aussi favorisé ça
Ah oui.
beaucoup, beaucoup.
Oui.
Ah
Vous y
oui.
allez plus
Ah oui,
volontiers
tout à
depuis
fait.
qu'il y a le
Ah
tram.
oui, tout à fait. En ce qui me concerne, moi,
Ouais. Non, pour vous, ça a été un vrai changement, en
ah,
fait, l'arrivée du
complètement,
tram.
ah,
Hein.
complètement. Ah oui. D'autant plus que nous avons la chance d'avoir une station de tram vraiment à, je pense, moins de 5 minutes à pied, là. Hein.
Oui.
Puisqu'on traverse la rue de la Source et
Oui.
on a tout de suite la station de tram au bout, là.
Oui.
Donc c'est un vrai bonheur de partir de chez soi avec son sac en bandoulière et plus monter dans la voiture
C'est ça.
et puis savoir qu'il va falloir se garer. Et alors que là, en plus, on descend à la station enfin, dans le quartier où on a envie d'aller. Et ensuite, on remonte, suivant ce qu'on a fait dans Orléans, on peut tout sillonner facilement et reprendre à n'importe quelle autre station. Et ça, vraiment, pour nous, ça a été un changement radical. Parce que moi, le bus, je ne le prenais
C'est
jamais.
ça.
Qu'en cas
C'est
de
ça.
nécessité absolue,
C'est ça.
c'est-à-dire la voiture est au garage et voilà. Mais le bus, c'était vraiment une sinécure. Hein. Ça a changé vraiment les déplacements.
C'est ça. C'est important, ça. Et on parlait donc du fait que le quartier était vraiment résidentiel. Alors, quand vous êtes arrivé ici, vous étiez avec des enfants encore petits.
Oui, la dernière avait 10 mois.
Voilà, c'est ça. Comment ça se passait en termes d'équipement, justement, sportif, culturel, ben, puis les écoles pour les enfants, en fait,
Alors,
comme.
ça a été un des problèmes auxquels on a été confrontés très très rapidement et je pense qu'on n'en avait pas vraiment pris conscience avant. C'est que l'école où elles étaient, l'école du Larry qui
Ah oui, je
existe
vois.
maintenant ici,
Je
n'existait
vois.
pas du tout.
Ah,
Elle est
d'accord.
très récente.
D'accord.
Et nos filles étaient scolarisées à l'école du Poutil,
Oui, je
au
vois.
centre d'Olivet,
Je
ce
vois.
qui représente quand même environ
C'est assez
3 km.
loin, oui.
Et il y avait un système de ramassage scolaire.
Oui.
Les bus en fait partaient et arrivaient ici à côté, là, dans la résidence qui s'appelle le Claude Lorette.
Oui.
Et donc, bon, c'était quand même assez simple parce que bon, on les accompagnait évidemment à pied au bus,
Au
mais enfin,
bus.
bon, on les récupérait aussi le soir
Oui.
assez facilement finalement, hein.
D'accord.
Mais au départ, quand on a réalisé où était l'école par rapport à ici, on s'est dit, mais comment on va faire? Parce que quand on travaille, moi je travaillais assez loin l'année où on a habité ici, je travaillais à Neuville-aux-Bois.
Oui, ah oui, ça fait quand même une petite distance.
Et j'ai cherché une nourrice pour ma dernière fille qui avait 10 mois, donc là-bas, en me disant que ce serait plus simple. Parce que ici, on a aménagé en août. Donc je me
Vous
disais
preniez tout de suite.
qu'entre le mois d'août et la rentrée scolaire, j'aurais jamais le temps de trouver une nourrice à Olivet. Donc j'ai commencé à chercher début juillet à Neuville-aux-Bois. Et j'emmenais donc mon bébé avec moi là-bas.
Elle était
Mais les deux
gardée.
grandes, il fallait quand même.
Oui.
Bon, alors dans le lotissement, là, il y avait d'autres enfants qui allaient prendre ce bus pour l'école centre-bourg d'Olivet. Ce qui fait que, comme il y avait des plus grands, et notre fille aînée avait quand même 9 ans et demi, oui, c'est ça, lorsque nous sommes arrivés ici, 9 ans et demi, La deuxième avait 6 ans et demi. Et il y avait des enfants plus grands. Mmh. Et donc, finalement, le matin, ils faisaient un petit convoi.
Oui.
Bon, au départ, nous, on a cherché le plus possible à les accompagner. Oui. De temps en temps pour voir un peu comment ça se passait. Puis finalement, on a vu que ça se passait très bien, mmh. que finalement, tous les enfants du quartier convergeaient
ouais.
là et que du coup...
Elles étaient en sécurité.
Voilà, c'était presque l'ancêtre du pédibus hein, oui, qu'on peut voir maintenant. Sauf qu'il n'y avait pas d'adultes, ou pas toujours, parce que c'est vrai qu'on a toujours essayé avec mes voisines en particulier. Moi, j'étais enseignante, donc il y avait des matins où j'avais cours plus tard, où je n'avais pas cours, où j'accompagnais les enfants. Une autre voisine était aussi enseignante, deux autres étaient enseignantes. Et on faisait pareil, en fait, on essayait toujours d'avoir un adulte quand même qui les accompagnait et qui allait les rechercher le soir. Enfin, nous, au début où on était ici, en tout cas, elles ne sont jamais allées toutes seules. Après, petit à petit, bon, ça s'est fait. Mais au départ, on a toujours eu un adulte qui les accompagnait. Ouais. Et puis, ça se passait très bien. Et il y avait une personne dans le bus, un adulte dans le bus qui faisait les trajets avec les
jusqu'à
enfants.
L'école.
Jusqu'à l'école et qui revenait. Et
ça, c'était... parent, en fait.
Non, c'était une personne salariée de la mairie d'Olivet.
Ouais.
Et parce que ce ramassage était organisé par la mairie d'Olivet.
D'accord.
Et c'était payant. Mm-hmm. Donc on payait, c'était très modeste, ouais. C'était de toute façon un vrai service. Hein. Mm-hmm. Et voilà, on a tout de suite adhéré à ce système.
Oh bah oui, ça a l'air d'être
un bon système. Alors depuis, les enfants du quartier vont à l'école du Larry.
C'est ça.
Dans le quartier de la nouvelle clinique de la Recherche.
C'est ça.
Et évidemment, c'est beaucoup moins loin.
Ouais. Et pour les activités, vos filles sont allées vers Olivet,
Oui. C'est-à-dire que notre fille aînée, quand nous sommes arrivés ici, faisait de la danse classique depuis déjà quelques années. Et donc, on a gardé son école parce que, bon, on s'est dit que, bon, déjà, le déménagement, changement d'école, ça a été très, très difficile pour elle. Parce que l'école où elles allaient, Faubourg de Bourgogne, c'était une toute petite école avec des tout petits effectifs. Et d'un seul coup,
l'école des Cordiers ?
C'était non, juste à côté. C'était l'école Galouédec.
Galouédec, ah oui, c'est l'autre, effectivement.
Et notre fille aînée du CP au CE2 avait une toute petite classe de 12 ou 13 enfants.
Ah oui.
Et lorsqu'elle est arrivée à Olivet, elle s'est retrouvée dans un CMA à 31.
Ouais.
Et ça très, très difficile. Et on s'est dit que, bon, elle avait déjà suffisamment à assumer dans tous les autres domaines. On l'a laissée dans son cours de danse classique là-bas.
Au centre-ville.
À Saint-Jean-de-Bray.
Ouais,
et par contre, bon, toutes les autres activités, elles ont commencé. Elles ont commencé ici. Puisque la deuxième n'avait pas encore d'activité. Et en plus, ici, la mairie d'Olivet a mis en place, mais je crois que c'était le cas également à Orléans, puisque on allait le faire où on habitait avant, quelque chose qui s'appelait à l'époque les contrats bleus. Et qui permettait à des enfants de tester des équipements sportifs de la commune et par trimestre d'aller dans un club d'équitation pendant un trimestre, dans un club de théâtre pendant un trimestre, dans un club de basketball pendant un trimestre.
Pour avoir différentes expériences et faire leur choix en connaissance de cause. Du coup.
Voilà. Ouais. Et c'était très très bien organisé parce que c'était lié avec l'école. Et à la sortie de l'école, en fait, les enfants étaient acheminés sur les différents lieux de sport ou activités artistiques. Et donc la deuxième a participé à ces contrats bleus et ensuite a choisi des activités. Bon, elle a fait beaucoup de natation, en particulier à Olivet. Et puis la troisième également a participé à ces contrats n'ont plus existé après. Mais ça a été vraiment une très, très bonne expérience.
Ouais. Alors, on va passer maintenant, justement, vous me disiez, vous étiez enseignante à Neuville-aux-Bois, donc
peu de temps entre parce autres. que je n'étais pas titulaire.
Oui.
Et donc, je bougeais beaucoup.
Alors justement, est-ce qu'on pourrait retracer un petit peu votre parcours à l'éducation nationale
et voir un peu comment
ça s'est...
J'ai commencé par un remplacement en cours d'année scolaire au lycée Benjamin Franklin, quelques mois. Ensuite, l'année suivante, j'ai été à la source au collège Montesquieu. Ensuite, j'ai dû revenir centre-ville au lycée Potier. Et ensuite, je me suis beaucoup promenée entre donc Neuville-aux-Bois,
oui.
Patay,
oui.
Sully-sur-Loire. Je me suis beaucoup promenée, moi, dans le département Châteauneuf-sur-Loire,
oui.
Où là, j'ai eu la chance de rester 3 années. Est-ce que je suis passée aussi? Il y en a eu d'autres, c'est sûr. Neuville, Montesquieu, Sully, Châteauneuf, Patay, Neuville-aux-Bois, ça commence à faire déjà pas mal. Hein.
Oui.
Et puis,
ça fait beaucoup de voyages.
Et puis ensuite, j'ai eu la chance de revenir sur Olivet 2 années de suite. Une année dans un collège, l'autre année dans l'autre. Charles Rivière et l'Orbelière, donc.
Oui.
Et là, enfin, j'ai été... Bon, il faut dire que moi, je n'étais pas carriériste. Hein, donc... et en fait, le fait de changer comme ça ne me coûtait pas. J'étais toujours attirée vers le nouveau. Donc finalement, je n'ai jamais rien fait pour que ça s'arrête. Alors que sinon, bon, je pense que si j'avais vraiment voulu réagir, ça aurait été différent. Et, puis là, j'ai été titularisée. Alors, j'ai d'abord été TA, ce qu'on appelait TA, c'est-à-dire titulaire académique.
Oui.
Ce qui ne m'aurait pas empêché d'aller me promener partout. Ce qui a continué d'ailleurs en tant que TA, puisque... Et à l'époque, j'avais dans mes toilettes un sous-verre avec une gravure que j'avais trouvée dans un journal de quelqu'un qui conduisait une roulotte avec des chevaux. Et il y avait deux gendarmes à côté qui semblaient assez mécontents. Et la personne répondait « Mais non, je ne suis pas, en train de squatter le terrain. » Je ne sais plus la réflexion, mais bon, je suis titulaire académique. Et donc, je l'avais encadré parce que c'était vraiment... Et par la fenêtre de la roulotte, on voyait... Une petite table avec des copies à stylo rouge. Enfin, c'était vraiment... Donc, c'était mon cas. Et j'ai été titulaire académique donc quelques années. Après quoi, j'ai été vraiment titularisée sur un poste. Et là, j'ai atterri et terminé ma carrière au collège Jean Rostand à l'Argonne.
Oui.
À Orléans, donc. Ouais. Vraiment. Et avec une population tout à fait particulière. C'était un collège de... Non seulement de ZEP, mais en plus établissement sensible.
Oui.
Et ça veut tout dire, c'était sensible. Et c'est là où j'ai passé les années les plus extraordinaires de ma carrière, où j'ai vraiment des souvenirs d'enseignante, et aussi bien en tant qu'enseignante et en tant qu'être humain et en tant que unité d'une collectivité, enfin vraiment extrêmement riche. Avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'échanges, de richesses humaines, de problèmes aussi. Hein, il ne faut pas les,
aussi
les masquer.
Aussi bien au sein de l'équipe pédagogique qu'avec, qu'avec les élèves.
Mais beaucoup plus, quand je parle d'échanges et de richesses, paradoxalement, c'est beaucoup plus avec les élèves qu'avec l'équipe pédagogique. Et lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai un peu devancé l'appel. Et mes amis, mes amis en général, ma famille, tout le monde me disait oh, « Mais tu sais, tu te rends compte quand même, est-ce que tu vas pas, est-ce que ça va pas te manquer quand même, tu vas te retrouver là, les relations avec tes collègues ?» Et je disais, je sais pas, on verra bien. J'ai pris ma retraite, en fait, pour garder mon petit-fils, pour devenir sa nounou officielle. Et finalement, Non, mais ce n'est pas les relations avec mes collègues qui m'ont manqué parce que j'ai fait des tas d'autres choses. Et puis, j'ai continué mes activités à côté, donc la chorale en particulier. Non, les relations avec les élèves, oui.
C'est ça.
Parce que.
Et en particulier avec ceux-là que vous aviez connus
Voilà. En
vers la fin de
particulier
votre
avec
carrière.
ceux-là. Et quand je parle d'émotion, ce n'est pas un mot galvaudé, c'est une réelle émotion et c'est vraiment. Je parle de richesse et ces enfants-là m'ont apporté autant que je leur ai apporté.
Vous étiez prof de quoi?
D'allemand.
D'allemand.
Et vraiment, c'est. Avec mon mari, de temps en temps, on en rencontre de ces élèves qui sont maintenant des adultes et qui nous disent des choses qui me conforte dans ce que moi je ressens. Et ben maintenant, ils n'ont plus aucun intérêt hein, à me dire que je leur ai apporté des choses dont je n'avais pas vraiment conscience d'ailleurs à ce moment-là. C'est ça qui est vraiment. Jamais j'ai eu l'impression de faire des choses formidables. Moi, j'avais juste l'impression de faire ce que je pouvais et le mieux possible, mais j'avais l'impression que c'était banal. Et en fait, je me rends compte que vraiment, mon mari me le disait parce qu'il fréquentait mes élèves. Je les emmenais en Allemagne, par exemple. Il nous accompagnait. Et là, bon, c'était encore plus riche, évidemment, d'échanges. Hein. Et vraiment, ces enfants devenus adultes qui ont, pour leur grande part, réussi dans la vie, que ce soit leur vie privée ou professionnelle, ou enfin leur, bon, ils ont réussi à être des individus responsables, des adultes.
Équilibré.
Voilà, c'est un bonheur parce que j'y pense souvent. Et quand j'en rencontre un qui me donne encore de l'émotion, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est devenu important, alors qu'à ce moment-là, vraiment, j'en avais pas
Pas
conscience.
conscience. Et qu'est-ce qui fait que dans ce lieu-là, avec ces enfants-là, il y avait... Est-ce que c'est une guerre?
Oh, mais je crois qu'elle était prisonnière en dessous, là.
Ah, j'ai entendu,
Elle
mais je
n'était
la
pas
vois plus.
contente.
Oui. Elle a
Non,
manifesté
c'est
très fort.
un gros.
C'est un bourdon?
Que ça peut être.
C'est ça?
Oui, c'est
Ah
ça.
oui. Il y en a
Ah,
deux. Ils
c'en est
sont
deux,
deux.
c'est une association. En fait, voilà pourquoi il faut autant de bruit. Il doit y en avoir un des deux qui n'est pas d'accord. Ben, je crois que qu'est-ce qui fait que dans cet endroit-là, c'est que je pense que inconsciemment, j'ai compris que c'était un endroit particulier où il fallait être. En fait, je pense. Honnêtement, maintenant, avec le recul, que c'était formidable que ce soit moi qui atterrisse là et que ce que j'ai en moi a pu être utilisé complètement, totalement et pour ces enfants-là. Et j'avais vraiment très, très honnêtement et très objectivement aucune conscience lorsque j'étais enseignante. Je dis ça vraiment sans fausse modestie parce que maintenant ben, je peux me permettre puisque de toute façon j'y suis plus. Et puis j'ai tellement vraiment jamais jamais réalisé que j'avais peut-être un plus par rapport à d'autres. Je le sais maintenant et après tout ben voilà je le dis en toute modestie et j'ai pu effectivement utiliser finalement ce qu'il y avait en moi qui correspondait particulièrement à ces enfants-là. Et donc c'est beaucoup de bonheur de penser que je leur ai apporté quelque chose. Vraiment. Et bon, ils m'ont aussi apporté beaucoup parce qu'on avait. Je pense surtout que le fait que moi je les respecte et que je les aime en tant qu'individu a fait qu'ils m'ont respecté et qu'ils m'ont aimé en tant qu'individu. Et c'est ça qui a fait cette richesse et qui a fait que mon enseignement, après, était accepté, mais par ces biais-là,
Je
ce
comprends.
que je ne savais pas pendant toutes ces années-là.
Et justement, la pratique de votre métier, tout au long de votre carrière. Donc, elle a dû évoluer. Comment est-ce que cette pratique et comment votre vision du métier, votre façon de vivre ce métier a évolué finalement quand vous faites justement un peu le quand vous regardez les choses de maintenant,
oui.
Comment vous voyez ce parcours, cette évolution dans votre façon de vivre votre métier ou de le percevoir?
Bah, en fait, je crois surtout que le fait de ne pas avoir conscience que j'avais réellement peut-être un don, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, que j'avais réellement un plus en moi pour ce métier, a fait que je m'y suis lancée sans arrière-pensée, sans me demander est-ce que je vais y arriver, parce qu'on m'a fait enseigner toutes sortes de matières. J'ai toujours accepté, c'était d'une inconscience totale. Et le pire, c'est que je crois que j'ai à peu près réussi à chaque fois. Et heureusement que je ne me posais pas de questions, heureusement que je ne me disais pas, mais est-ce que je vais y arriver? Parce que sinon, j'y serais certainement pas arrivée, ça m'aurait bloqué. J'ai enseigné de l'hygiène, j'ai enseigné dans des classes de CPPN à l'époque des choses, mais j'ai même enseigné des choses que je ne savais pas faire. Donc, ça paraît complètement aberrant, mais c'est vrai. On m'a donné des cours de musique à faire dans un collège. Et bon, j'ai beaucoup joué de l'électrophone, hein. Mais heureusement, bon, mes parents m'avaient fait faire du solfège et du piano quand j'étais petite. J'ai toujours beaucoup aimé la musique, j'ai beaucoup chanté, je faisais déjà partie d'une chorale. Donc, je connaissais déjà quand même pas mal de choses, mais pour être enseignant dans des matières il fallait vraiment, c'était une époque terrible parce que, alors la seule chose que je n'ai pas acceptée, mais le principal du collège, lorsqu'on en a parlé, m'a dit « Ah oui, ben non, là, effectivement, cette matière-là, on va vous la retirer », c'est qu'on m'avait donné carrément des heures de sport à faire et que lorsque je suis arrivée en septembre, j'étais enceinte de 6 mois. Et là, j'ai dit « Alors,
il y a quand même un problème.
Prof d'allemand qui fasse du sport, déjà, c'est peut-être pas évident. Alors, le sport et moi, c'est pas évident non plus. Et alors, en plus, là, je crois que quand même, il va falloir mettre... » Bon, et là, il m'a dit, « Oui, non, là, effectivement, bon, on va faire autrement. » Donc, j'ai gardé des heures de musique, j'ai fait des heures d'hygiène, j'ai tout fait. J'ai fait de la cuisine aussi. Ça s'appelait banc d'essai cuisine. 4 heures de cuisine tous les mardis matins dans une cuisine pédagogique. Et j'ai fait en cuisine avec mes élèves ce que je ne savais pas faire. Je n'avais jamais fait de pizza. Et ben, j'ai fait de la pizza avec mes élèves et c'était bon, pas toujours extraordinaire, hein, mais bon, il y avait le côté pédagogique, il y avait le côté échange. Bon, après la dégustation, il y avait à redire, mais bon, après tout, c'était peut-être formateur aussi, hein, j'espère d'ailleurs.
Enfin, votre domaine, c'était l'allemand.
C'était l'allemand et c'était... J'ai toujours tout fait quand même pour privilégier ce domaine-là. Et donc j'ai enseigné. Les dernières années de ma carrière, je n'ai enseigné que de l'allemand. Enfin, les dernières années, ça faisait déjà un bon moment quand même, depuis que j'étais titulaire. Donc, et après, bon, j'ai organisé des voyages en Allemagne pour mes élèves. J'ai fait beaucoup de choses dans cet esprit-là.
Vous aviez des niveaux préférés, des classes préférée ou pas vraiment?
Non, j'ai tellement aimé, j'aimais bien les petits parce qu'ils étaient touchants,
les petits sixièmes,
j'aimais bien les grands parce que les échanges étaient plus forts, ils étaient plus musclés aussi, mais bon, ça allait avec, quoi, c'était, même les plus durs de mes élèves, lorsque je les rencontre, les échanges restent au niveau humain, en fait, et c'est ça qui est... Je crois que vraiment, s'il y a un mot si je devais résumer ma carrière en un seul mot, allez, deux mots, je dirais humain et respect. Et de ça sont sorties vraiment beaucoup de choses, quoi. Je crois que c'était vraiment la base. Et je crois que ce qui est bien aussi, c'est que je n'ai jamais eu conscience, exprimée en tout cas, que tout ça, c'était un plus. Donc je l'ai fait naturellement, comme si c'était tout le monde, comme si c'était. Et même quand on me le disait, parfois on me le disait, oh, t'es vraiment une prof super. Bon, moi je prenais ça comme une flatterie ou comme pour me faire plaisir, quoi. Et je ne suis pas en train de dire que j'étais une prof super, d'ailleurs, ça serait vraiment présomptueux. Mais j'ai été, je pense, une enseignante très, qui a aimé aussi bien le métier que les enfants qui étaient en face de moi. Et ça, parfois, ça pouvait être mal perçu aussi, parce
C'est-à-dire.
que je pouvais avoir des méthodes pas très classiques.
Pas très dans la norme.
Moi, mes élèves, ils pouvaient manger un petit gâteau pendant un contrôle, ça ne me gênait pas du tout. Alors que j'avais des collègues qui étaient horrifiés à cette idée. Et non seulement ils pouvaient en manger un, mais parfois c'est moi qui leur distribuais. Donc, bon, parfois c'était mal perçu parce qu'on ne mange pas en cours, point. On ne se demande pas si ça leur fait du bien aussi. Enfin, pour moi, c'était ça qui était important. C'est qu'ils soient bien, c'est que même s'ils mâchaient un chewing-gum, moi ça ne me dérangeait pas. Si ce n'était pas évidemment la bouche grande
Bien
ouverte,
sûr.
enfin bon, c'était, il y avait des limites, mais les limites, les enfants les saisissent très vite, hein. Ils savaient bien que c'est toujours dans cet esprit de respect, je pense, aussi bien de l'enseignant que des enfants. Et moi, ben, s'il faisait chaud, il pouvait boire. Et voilà, alors que c'était strictement interdit, une bouteille d'eau dans un
Ah oui.
cartable, oh là là, mon Dieu, c'était un sacrilège. Alors c'est vrai aussi que ça pouvait dégénérer parce qu'il pouvait se les
Les
balancer
lancer.
dans le couloir. Et que, bon,
Ouais.
mais voilà, moi je leur disais, si vous avez une bouteille d'eau pour boire au cours parce que vous avez soif, si vous l'achetez sur la tête du copain dans le couloir,
Ça
vous
va plus.
gâchez tout. C'est pas possible ça. Et du coup, si on leur tenait ce discours-là, ça marchait très très bien. Moi, quand on partait en Allemagne, la première fois que j'ai fait venir la personne de l'entreprise du car qui devait nous emmener, j'avais trouvé une petite compagnie dans le Cher qui prenait moins cher et on arrivait à faire tenir le budget. La première fois que le monsieur est venu, il m'a dit, alors vous savez, pas de sac dans le car, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Bon. Ah mais je lui dis, là, on va pas être d'accord du tout, parce que c'est leur voyage. Si on leur met leur sac dans la soute avec toutes leurs affaires, ça va être. Non, 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 ça c'est pas possible. Ah, mais il m'a dit, c'est pas négociable. Sinon, le nettoyage du car, ça coûte tant. Alors j'ai dit, bah, écoutez, si voilà, il y a quand même quelque chose qui est négociable. Si le car est à nettoyer, c'est moi qui paye, ça vous va? Elle me dit, il faut signer un papier. Je dis, il n'y a pas de problème, je
Vous
signe.
avez
Bon,
signé.
j'ai signé et voilà, j'ai dit à mes élèves après, voilà, j'ai pris l'engagement pour vous.
Il savait que
Je me
c'était vous
suis
qui
peut-être un peu
paierez.
avancée, mais voilà, je ne leur ai même pas dit ça, j'ai même
Ouais,
pas eu besoin.
ouais,
Je leur ai dit,
ouais.
voilà, c'est votre voyage. Alors, on s'est un peu frité avec le monsieur. Bon, je leur ai présenté ça d'une façon un peu que ça soit. Et puis, je leur ai dit, voilà. Moi, je n'étais pas du tout d'accord. Je lui ai dit, mais non, mais c'est pas possible, vous comprenez? Il faut qu'ils aient leur sac et leurs affaires dans le cœur. Il faut qu'ils puissent boire ou manger. Oh là là! Oh là là! Mais alors là, il en était pas question. Je leur ai dit, bah, vous vous rendez compte, si vous faites toutes ces heures, bon, il faut que vous puissiez avoir. Bon. Alors, il me dit, bah oui, madame, bah oui. Bon. Bah, alors, j'ai dit, par contre, si vous voulez, le souci, c'est que bon, il va vraiment falloir que ce soit nickel. Mais bon, j'ai confiance en vous, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, oh non, mais vous, aucun souci avec mes élèves, vous inquiétez pas. Ça va être impeccable. Bon, et pendant ce temps-là, à l'époque, il y avait encore les sacs en plastique dans les grandes surfaces.
Ouais.
Donc, je collectais les petits sacs en
Les sacs
plastique. Et puis,
pour
quand on
faire
est
les
monté dans le
poubelles.
car, je leur ai donné chacun un petit sac. Je leur ai dit, attention. Puis, alors, c'était notre confidence, quoi.
C'est ça.
Ils étaient mes complices, finalement, hein, dans le truc. Alors, je leur ai dit, attention, hein, il faut que le car. Parce que sinon, puis le car, on le gardait pendant notre séjour, hein, avec le même chauffeur. Donc, il valait mieux
Ça
que ça
se
se
serait
passe
mal
bien.
passé, oui.
Et le matin, quand on est arrivé à l'auberge de jeunesse où on allait, ils avaient chacun leur petit sac en plastique. Ils ont noué les deux petits bords poubelles en passant. C'était
Impeccable.
solennel, c'était. Et alors, le chauffeur, il regardait ça. Et au petit déjeuner, au réfectoire, il m'a dit, vous savez, madame, vous enlevez les noms, vous avez dit, hein, je crois.
Oui, vous
D'accord.
inquiétez
Parce que bon, d'un seul coup, je me dis,
pas.
il
Non,
m'a dit, vous savez, mon car, dans cet état-là, après qu'une classe y ait passé la nuit, je ne l'ai jamais
c'est
vu.
jamais arrivé.
Alors je lui ai dit, vous savez, c'est pas à moi qu'il faut le dire,
C'est à
c'est
vous.
à eux. Alors bon, à la fin du petit déjeuner, j'ai tapé un petit peu dans mes mains, puis j'ai dit, le monsieur a quelque chose à vous dire. Oh, je le voyais, il me regardait d'un air tétis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Okay. Pourtant, on croit qu'on... Enfin bon, et il les a félicités. Mmh, et ces enfants-là, qui étaient tellement rarement félicités, il y a même des enfants, moi, mes collègues m'avaient dit, mais tu vas pas emmener un tel, mais tu vas pas emmener une telle, mais tu te rends pas compte, ça va être l'horreur. Mmh. En particulier, un gamin qui s'appelait et qui était la bête noire. Mais j'ai dit, mais si, moi, tous ceux qui viennent et qui peuvent, je les emmène, si. Et ça s'est passé merveilleusement, mmh. Vraiment. Et ils étaient tellement fiers, ils me regardaient d'un air de dire, vous avez vu, hein, on l'a fait. Hein. Mmh. Et un papier de bonbons, on l'aurait cherché, on l'aurait pas trouvé. Et pourtant, c'était la nuit. Hein.
Ouais.
On voyait rien, hein. Toute la nuit, ils ont voyagé. Ouais. Hein. Et bon, ils ont bu leur canette, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Du moment que le car était propre et le car était impeccable. Et le chauffeur, le matin, il m'a dit, mais... j'ai même pas à balayer. Alors que d'habitude, bon, il avait au moins le car à balayer le matin.
Ouais.
Même pas.
Encore mieux que quand on interdisait aux enfants.
Mais c'est ce qu'il m'a dit. Mais oui, c'est ce qu'il m'a dit. Mais je lui ai dit, mais c'est normal. Si vous leur interdisez, ils cachent des bonbons et des chewing-gums dans leur poche.
Ouais.
C'est logique.
Ouais.
Donc, obligatoirement, ces bonbons-là, ces papiers-là, vous allez les retrouver par terre.
Ouais.
Puisqu'il n'y a pas eu de consigne, il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu de... Voilà, mais en fait, finalement, c'est ça la pédagogie.
Mmh.
C'est leur montrer ce qu'ils ont intérêt à faire pour eux-mêmes.
Pour eux-mêmes. Mmh.
Donc voilà, j'écoutais hier un pédopsychiatre à la radio qui donnait des conseils à une maman qui téléphonait pour demander est-ce que c'est bien de faire un cadeau à mon enfant qui a bien réussi à l'école. Alors bon, ils discutaient beaucoup là-dessus. Et puis à la fin, ils disaient, vous savez, peu importe qu'on va faire autour. Ce qui est important, c'est que l'enfant comprenne que la première récompense, c'est de réussir et c'est d'avoir des bons résultats, mais pour lui-même.
Mm-hmm.
Pas...
Mm-hmm.
Bien sûr que c'est important de les motiver et que ça fait plaisir au papa et à la maman et que l'enfant, bon, il est content de faire plaisir à ses parents, ça c'est sûr.
Mm-hmm.
Mais il faut d'abord que ce soit pour lui-même.
Mm-hmm.
Et c'est ça qui n'est pas facile quand on est enseignant, c'est de leur faire comprendre que c'est pour eux.
Mm-hmm.
Et j'ai toujours répété à mes élèves, toujours, mon rêve serait d'enseigner sans jamais mettre de notes.
Mm-hmm.
Parce que ça, ce serait de l'enseignement.
Mm-hmm.
Ce serait comme raconter l'histoire de France. Quand on raconte une histoire à un enfant, il a la bouche grande ouverte, il vous écoute, il gobe vos paroles. Si on leur racontait l'histoire de France, au lieu de leur dire, t'apprends ça par cœur pour demain parce qu'il y aura une interrogation, ce serait merveilleux. Bon, est-ce que c'est réalisable? Je ne sais pas. Moi, j'ai des amis souvent qui me disaient, écoute, hein, sois ministre de l'Éducation nationale, puis et bon, voilà, avec tes idées. Mais bon, bien sûr qu'on ne refait pas le monde comme ça avec des mots et que c'est facile à dire et que c'est sûrement moins facile à faire. Mais quelque part, c'est entre ça et autre chose.
Quoi. Mmh.
Mais voilà, moi... Ma conviction, c'est ça. C'est que si on leur fait comprendre que c'est pour eux, et pas pour le bulletin, le carnet. Hier soir, je disais à des amis à la chorale, justement, on avait notre soirée de fin d'année, et je disais, j'avais mes deux petits-enfants qui étaient là, que ma fille allait venir rechercher, mais bon, il y a eu un petit moment où ils étaient avec nous. Et mon petit-fils avait un énorme dinosaure en plastique. Il a eu ce dinosaure parce qu'il avait eu un bon bulletin. Et mes amis de la chorale me disent, quoi, il a déjà un bulletin à 6 ans? Ben oui, il a eu un bulletin avec, c'est pas des notes, c'est des
carrés,
petits signes, c'était des triangles. Mais à la fin, il y avait une vraie appréciation. Et puis, on a remis le bulletin aux parents, et t'as vu mon
dès bulletin. Le CP, en fait.
Et voilà, et il est en CP. Et mes amis de la chorale, ils disent, oh, il a déjà un bulletin, pauvre chérie. Ben oui, alors que ce serait tellement bien de pouvoir faire sans. De leur apprendre à lire et à écrire, puis à compter, et puis à être un individu, et puis je sais pas où est la faille, mais pour moi, il y a une grosse faille.
Ouais.
Comment la combler? Par contre, alors ça, il faudrait bah, une révolution pédagogique pour arriver à... Mais bon, il y a des pays où on est quand même moins dans le résultat, la note, oui. le contrôle, la leçon, l'interrogation, etc. Donc, c'est faisable. J'y crois totalement.
En tout cas, c'est ce que vous avez réussi à faire
dans vos classes. Dans mes petites limites. Mais un petit peu, oui, un petit peu. Disons que j'ai mis en place, sans le savoir, des convictions que j'avais aussi sans le savoir d'ailleurs.
Parce que ça relevait de l'évidence.
C'était en moi. Ouais. Mais je n'ai jamais vraiment su que je faisais des choses en fonction de ça. Quoi. Ça s'est fait vraiment tout seul. Et heureusement, je pense. Heureusement. Parce que ça m'a permis d'être dans un cadre strict, parce que le cadre de l'éducation nationale est un cadre strict, tout en mettant en place des petites choses à mon niveau dont je ne savais pas qu'elles étaient un petit peu hors cadre. Et donc ça a pu se faire tranquillement. Quoi.
Ouais, j'ai juste une dernière question sur votre métier. C'est un bonheur de vous entendre en parler, vraiment. Donc, vous étiez professeur d'allemand. On entend tellement dire que les classes d'allemand se vident, que les jeunes ne prennent plus l'allemand. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'en pense que on a trop dit que l'allemand était une langue difficile, d'une part, ça c'est certain, et puis d'autre part, je pense que bien qu'on ne le formule pas et bien qu'on n'en parle pas, j'en ai jamais entendu parler, je pense quand même que l'allemand, c'est le mot qui concerne le langage, mais aussi le personnage, l'individu habitant en Allemagne, enfin bon, et que par rapport au français, il y a quand même quelque chose qui perdure, à mon avis, de l'ordre de l'ennemi, et que l'allemand, bon, voilà, c'est pas... Bon, il est vrai aussi que là, il n'y a pas de discussion, que l'anglais est la première langue pratiquée. Alors, l'allemand est la première langue pratiquée en Europe, hein, il faut quand même le savoir.
Dit assez peu, en fait.
Absolument. Et de très loin, hein, puisque l'anglais en Europe, finalement, est assez peu représenté. Mais bon, il est évident qu'il faut parler anglais, ça, il faudrait être borné pour dire le contraire. Mais l'allemand est la première langue pratiquée en Europe, et une langue qui est aussi importante dans nos échanges commerciaux, puisque la France a quand même comme premier partenaire commercial l'Allemagne. L'allemand est aussi beaucoup parlé en Amérique du Sud, dans les pays de l'Est, enfin bon, en Pologne, dans tous les pays... Mais on le perd parce que d'une part l'anglais est beaucoup plus pratiqué, ça c'est sûr, l'espagnol est beaucoup plus facile, et je pense qu'on tombe dans la facilité tout simplement, hein. Mais je suis quand même persuadée, alors là bon, c'est vraiment une conviction personnelle, que dans beaucoup de familles en France, l'allemand reste associé au côté historique de l'ennemi, et de... Bon, voilà, et ça, on n'y peut rien. Hein. Moi, je suis vraiment convaincue de ça. Et que, en fait, après la guerre, il y a eu beaucoup plus de familles. On a fait de l'allemand parce que ça partait d'une volonté de reconstruire, donc de faire table rase, de bon, on commençait à construire l'échange franco-allemand, les relations entre les deux pays au niveau politique et tout ça, et que là les gens avaient une volonté d'adhérer à ça, dans l'optimisme de la guerre est finie, de on va redevenir frères, amis, etc. Mais que ça on l'a perdu. Puisque les nouvelles générations ne sont pas du tout dans cet esprit-là. On a beau en parler, on a beau faire des films, on a beau... on est loin de ça. Et je pense que du coup, on revient à l'ancienne pensée qui est plus ou moins inconsciente de l'allemand ennemi, l'allemand langue gutturale, langue, enfin bon, ça fait penser à des choses négatives et donc on n'incite pas les enfants à faire de l'allemand. Je pense que c'est tout un ensemble de choses qui fait que... Et alors, c'est très amusant d'ailleurs, parce que lorsque je suis arrivée à Jean-Rostand, il y avait des tout petits groupes d'Allemands, et que petit à petit, on a grossi, 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 et qu'un jour, il y a un inspecteur qui est venu et qui m'a dit « Mais comment vous faites ?» Parce que je me suis retrouvée une année. Alors là, j'ai subi finalement l'inconvénient d'avoir de plus en plus d'élèves qui voulaient faire de l'allemand, parce qu'une année, je me suis retrouvée avec une classe de 29 en 4e LV2, et à Olivier, la même année, ils étaient tombés à 21 ou 19, je ne sais plus. Enfin bon, et l'inspecteur était venu me voir, pas pour m'inspecter, mais pour me demander comment vous faites. Parce que quand je suis arrivée, il y en avait 7 ou 8. Et alors, je leur ai dit très honnêtement, il y a peut-être une question de méthode, mais il y a aussi le voyage. Ouais. Parce qu'ils veulent tous aller en Allemagne. Et donc, ils prennent allemand parce que tous mes collègues qui avaient fait des voyages les années avant que moi j'arrive, avaient tout abandonné parce que bon, ils avaient eu des très gros problèmes
pendant les voyages.
Et donc, il n'y avait plus du tout de sortie, plus rien d'organisé à Jean-Rostand. Et moi, lorsque j'ai parlé de faire un voyage, lorsque je suis arrivée au collège, on m'a dit « Ah non, 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 mais tu sais, non, non, c'est pas possible.
C'est plus possible.
Ici, ce n'est pas possible. » Alors, tu vois, tel collègue de sport les a emmenés faire un match, je ne sais plus où, ils ont vidé un supermarché, ils ont vidé tous les congélateurs d'un supermarché, ils se battaient à coups de poulet congelé dans les allées. Enfin bon, il y en a d'autres qui avaient organisé un voyage à Euro Disney. Ils ont retrouvé ils ont des élèves qui avaient disparu au moment de repartir. Ils ne savaient pas où ils étaient, en fait. Ils étaient en cage au commissariat parce qu'ils avaient volé dans un magasin. Bon, entre nous, les emmener à Euro Disney, des enfants de l'Argonne.
C'était peut-être pas très bien ciblé.
Bon, quand on voit des milliers de crayons Mickey, de peluches et de des monceaux de... Bon, il faut quand même aussi un petit peu réfléchir à ce qui va se passer. Et le risque qu'il y avait, bah, évidemment, c'est arrivé. Hein, et encore, il y en a qui se sont fait prendre, à mon avis. À mon avis, il y en a aussi qui ne se sont pas fait prendre. Hein, dans ceux qui...
Bien sûr.
Il faut aussi quand même
Bien
être... bon, ça partait de bonnes intentions de la part des enseignants, mais bon, il faut aussi cibler un petit peu quand même. Mais enfin, il ne se faisait plus rien, aucune sortie, rien du tout. Donc, évidemment, il se disait en prenant allemand, on va partir en Allemagne. Et comme les autres en plus racontaient qu'on allait dans une auberge de jeunesse géniale avec une piscine et que c'était cool et sympa et tout ça, et qu'on faisait des visites et que... là, on a un petit peu eu la rançon de ça, quoi. Parce que... Et là, ça a été une année difficile parce que du coup, on a récupéré dans cette classe-là vraiment des éléments... difficile à gérer et ça a un petit peu compliqué les choses quand même. Bon, ça s'est finalement pas trop mal passé. Mais voilà, c'était... Alors là, pour le coup, des élèves en allemand, il y en avait.
Ah oui, des effectifs comme ça, c'était inespéré.
Bon, c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup d'enfants qui avaient de la famille en Allemagne.
Oui.
En Turquie, ou ou qui avaient... des enfants de pays en fait limitrophes à l'Allemagne, qui étaient originaires de pays où l'allemand était une langue très utilisée, donc qui était véhiculée dans beaucoup de familles finalement. Donc il y avait plus d'enfants susceptibles de prendre l'allemand finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser,
paradoxalement,
qui était beaucoup moins proche de l'anglais que de l'allemand,
et
même leur langue d'origine était beaucoup plus proche de l'allemand que de l'anglais.
Ouais.
Hein, des enfants turcs, par exemple,
Bien
étaient
sûr.
Beaucoup plus à l'aise en allemand. Et j'avais beaucoup d'enfants de ces pays-là.
Alors, vous m'avez dit donc, que vous êtes maintenant à la retraite, mais nounou à plein temps.
Alors, plus parce que l'enfant dont j'ai été la nounou à plein temps a fini par aller à l'école.
Oui.
Et puis moi, j'ai eu d'ailleurs un pépin de santé à ce moment-là. J'ai eu un début de cancer du sein et ça a bien correspondu. Je l'ai gardé jusqu'à fin juin. J'ai été opérée début septembre. Donc, j'ai rempli mon contrat jusqu'au bout. Et puis ensuite, il a eu une petite sœur, ce petit garçon. Et bon, ça aurait été beaucoup trop compliqué parce que lui, il était tout seul. Donc ses parents faisaient l'effort de l'amener tous les matins et de le récupérer tous les soirs, mais ça leur faisait quand même 1 heure de trajet
Ah oui.
aller-retour le matin, 1 heure de trajet aller-retour le soir.
Ouais.
Donc le papa faisait le trajet le matin, la maman venait le chercher le soir, mais avec un deuxième, c'était pas possible puisque
Mais
l'aîné était à l'école. Donc cette petite fille, je l'ai gardée 1 journée par semaine.
oui.
Sa maman a pris un temps partiel, elle est professeure des écoles, donc elle a pris un temps partiel. Et cette petite fille est allée à la crèche 2 jours. Une journée, elle restait avec sa maman, une journée, c'est moi qui la gardais. Et puis là, nous avons eu, il y a 2 mois, une nouvelle petite fille que je vais à nouveau garder 1 journée par semaine à
Ah ouais,
partir de
c'est
la
formidable.
rentrée.
D'accord.
Voilà, et puis j'ai d'autres activités à
Alors vous
côté.
m'avez parlé de la chorale, vous chantez?
Oui,
Oui.
au cœur de l'université, donc.
Ouais.
Et j'ai fait partie aussi quelques années auparavant de la chorale de la Source. Et c'est un élément extrêmement important pour moi, le chant.
Oui.
Aussi bien le chant sérieux que le chant pour rire, parce que vous voyez,
Qu'est-ce
cette
que vous
nuit,
appelez
on
le
a
chant pour
ben, le
rire?
chant pour rire, c'est chanter n'importe quoi à tue-tête en s'amusant avec des amis, comme on a fait cette nuit pour la soirée de fan chorale. Une fois qu'on a eu épuisé la chef de chœur qui voulait nous faire chanter un petit peu tout ce qu'on avait chanté dans l'année, on a réussi à imposer, enfin je dis ça avec des grands mots, mais c'était dans la bonne humeur et dans la rigolade, hein. On a fini en chantant des choses vraiment pas du tout de notre répertoire. Mais on a bien ri, on s'est bien amusé. On est passé de la Java bleue à Johnny Hallyday. Enfin bon, voilà, c'était. Mais chanter, c'est un élément
Vous chantez
extrêmement.
depuis longtemps ou depuis toujours?
J'ai fait partie de la chorale de mon lycée, j'avais 11 ans.
Ah oui.
Je ne sais plus combien d'années, mais je me souviens bien que on a chanté le Beau Danube bleu à la fin de ma sixième,
Ouais.
devant le vieux directeur du lycée qui était retraité depuis longtemps, mais qu'on avait convié dans son fauteuil roulant pour je ne sais quel événement. J'en ai un souvenir assez précis. Et puis après, je n'ai pas chanté pendant assez longtemps et j'ai recommencé à chanter. Donc, ma dernière fille avait 3 ans et depuis, je n'ai jamais arrêté par contre.
Et ça vous c'est plusieurs fois dans la semaine,
Non, c'est une
c'est
soirée
une
par
soirée
semaine,
par semaine.
oui, une soirée par semaine de répétition, 2 heures, et un week-end de temps en temps, et puis des concerts qu'on donne. Dès qu'on peut, finalement, hein, dès que l'occasion se présente, enfin là, on les provoque aussi, hein, d'ailleurs, bien sûr.
Vous avez un répertoire favori?
Assez, pour moi
Personnellement,
personnellement,
oui.
non, non. J'aime tellement chanter que moi, si un chef de chœur propose quelque chose,
Vous êtes
j'adhère,
partant.
j'adhère. Alors, il y a des choses qui me plaisent plus ou moins. Hein. Là,
Oui.
cette année, on s'est beaucoup bagarré. Avec un Gloria de John Rutter assez ingrat. Et on a passé beaucoup de temps sur ce Gloria. Je ne peux pas dire que j'y ai pris beaucoup de plaisir. Il y a des bon, parce qu'il est ben, justement ingrat. Mozart est beaucoup plus gratifiant hein, à chanter parce que c'est tout de suite beaucoup plus dans les harmonies. Bon, voilà. Mais non, je n'ai pas spécialement. Comme je disais à l'instant, cette nuit, on a pris autant de plaisir à chanter tout ce qu'il y avait dans un carnet que quelqu'un avait apporté. On est vraiment passé de la Java bleue à Johnny Hallyday en passant par Barbara, et puis en même temps on a chanté quelques partitions qu'on avait travaillées dans l'année et avec autant de bonheur. Vraiment.
Et est-ce que vous avez d'autres activités
Oui,
particulières
tout à
comme le
fait.
chant?
Oui, je fais partie d'une association de prévention qui s'appelle Maïf Prévention, qui fait de la prévention, comme son nom l'indique, dans des domaines divers d'ailleurs, comme la prévention routière, comme enfin, la sécurité routière ou bien la sécurité domestique.
Ouais.
ou bien l'alcool, ou enfin bon, tout ce qui peut, partout où on peut intervenir en fait, en prévention donc, ouais. Et partout où on nous demande d'intervenir.
C'est ça, c'est dans, parce que j'allais vous demander comment concrètement en fait, comment,
alors, quelles étaient les modalités de l'intervention. Ben, ça peut être en fait n'importe quelle collectivité, il y a aussi bien des mairies qui nous demandent d'intervenir que des écoles. Ça peut être des maternelles, des écoles primaires, des collèges, des lycées beaucoup, beaucoup moins à l'université parce qu'on n'a pas encore j'allais dire prospecté, si on peut utiliser ce terme, dans l'enseignement supérieur. Ça peut être aussi dans des CAT, dans des vraiment dans des maisons de retraite, dans des, partout où on nous demande d'intervenir.
Tout type de public. Et...
Voilà, ouais. Voilà. Et là, nous sommes quelques bénévoles, uniquement des bénévoles à intervenir. Et pour tout le département.
D'accord.
Hein, c'est-à-dire que, alors ça a été initié par le MAIF en tant qu'assurance,
oui.
Mais c'est une branche prévention où il n'y a que des bénévoles et la plupart sont enseignants. Beaucoup, beaucoup d'entre eux sont enseignants. Nous sommes un petit groupe de 7 ou 8 personnes.
Oui.
Et voilà, nous partageons les interventions en fait suivant nos emplois du temps personnels. On n'a absolument aucune obligation et nous n'avons bien sûr aucune rémunération. Nous sommes simplement défrayés pour nos frais de déplacement.
Donc ça vous occupe
pas mal, ça dépend des périodes. Alors déjà, nous avons une permanence d'une demi-journée par semaine. À laquelle je suis bien sûr chaque semaine. Plus ces interventions que nous faisons donc dans tout le département. Alors il y a des périodes où on a énormément d'interventions, puis des périodes où c'est beaucoup plus calme, où on intervient assez peu. Et là on en profite pour gérer, nous distribuons beaucoup de documents, de DVD, de prospectus, d'imprimés dans tous les domaines, en particulier dans les collèges pour les élèves qui préparent la SSR. Et là, nous fournissons gratuitement, en tant qu'association, les documents d'apprentissage en fait, hein, qui sont donc des imprimés, des DVD, des livrets personnels, etc. Et nous participons également avec cette association à des programmes de prévention qui sont initiés par d'autres associations. Nous servons parfois de relais. Par exemple, là, cette année, il y a eu une activité qui s'appelait Ensemble à vélo,
oui.
Qui a été initiée par une association qui s'appelle Essuie-Glace. Et nous avons servi de relais donc dans les écoles pour cette activité.
Oui.
Donc voilà, c'est un gros volet de mon activité.
Je vois.
Et puis récemment, j'ai également commencé à intervenir dans le programme Lire et faire lire par l'intermédiaire là d'une. Alors là, le nom va m'échapper, c'est sûr, parce que c'est récent pour moi, donc j'ai pas encore. Alors, lire et faire lire, ça a été initié par l'écrivain Alexandre Jardin, avec quelques autres, bien sûr, et ça consiste simplement à aller lire des livres à des enfants dans des écoles.
D'accord.
Donc ça, j'ai commencé.
Donc là, vraiment, avec un public scolaire exclusivement.
Uniquement, oui, oui.
Et donc, ce sont des écoles qui font appel à vous.
Voilà, c'est ça.
Qui font appel à l'association.
Voilà, c'est ça.
Et vous allez...
Et ensuite, voilà. Et alors, là, ça a été relayé par la mairie d'Olivet, qui, donc, a contacté ses habitants, disant, voilà, nous avons accepté de lancer ce programme sur la commune et nous cherchons des bénévoles à nouveau pour venir... lire des livres.
Et c'est vous qui choisissez vos textes ou bien
tout à fait.
C'est l'école? Non, c'est vous.
Non,
hein.
Nous choisissons.
Vous venez avec le répertoire que vous
voilà,
voulez.
Voilà. Alors, bon, bien sûr, on essaie de cibler en fonction des enfants, de leur âge, de leur je pense que bon, c'est important aussi de voir un petit peu, par exemple, s'il n'y a que des petits garçons, on ne va pas essayer de lire un livre voilà, qui sera mal perçu à certains âges, parce qu'à d'autres, ils accepteraient.
Oui.
Donc, bon, on essaie de faire en fonction des enfants quand même. Hein. Mmh. Alors, on peut très bien, on peut choisir totalement librement le livre, mais on nous conseille, et je pense que c'est un excellent conseil très logique, de choisir des livres qui sont à la bibliothèque de la commune, de façon à ce que les enfants puissent les retrouver et les réemprunter éventuellement pour les lire eux-mêmes après.
Ouais.
Donc ça fait partie des petites pistes qui nous sont données en fait. Et donc voilà, c'est...
Entre la nounou, le chant, le...
Voilà, la prévention, les lectures, le chien, le jardin, la maison, enfin bon voilà, je suis... Toujours
très occupée.
Très occupée.
Je vois
très,
ça.
Très occupée.
Je vois ça. On va juste finir par quelques questions sur Orléans.
Oui.
Hein, sur, finalement, est-ce que Orléans, c'est une ville où vous plaisez, où il fait bon vivre? Est-ce que...
Alors là, je réponds avec enthousiasme, oui.
Oui.
Parce que nous avons connu Orléans finalement comme une ville provinciale ordinaire. Il y a 25 ans qu'on habite ici, mais on a connu Orléans quand on était étudiant. Alors là, on peut pas vraiment juger de la ville quand on est étudiant, mais quand on a commencé à habiter donc dans les années 75, où c'était vraiment une ville de province ordinaire, où la Loire passait presque inaperçue en centre-ville, on s'en rendait presque pas compte. Hein, j'ai pas, il n'y avait pas grand-chose à dire sur Orléans à l'époque, si ce n'est Jeanne d'Arc, bon, bien sûr, qui était quand même un personnage que tout le monde connaissait. Mais bon, à part Jeanne d'Arc, que dire de plus sur Orléans? Jeanne d'Arc, les arcades de la rue Royale, voilà, enfin, j'ai pas d'autre... Mais la ville a tellement évolué, changé, et que maintenant, on peut dire... Alors là, vraiment, je dis... un oui enthousiaste. Nous, on a vu une. On a vraiment constaté. Et alors là, c'est.
Ça y est, elle est partie.
La petite bête qui perturbe l'entretien. vraiment, c'est même extraordinaire, je trouve, à quelle vitesse ça s'est fait.
Et vous le datez de quand, ce changement, en fait, ce début de transformation de la ville?
Bon, c'est récent quand
c'est
même.
Récent.
Oh, c'est très récent, je dirais. Le tout début, peut-être 6-7 ans.
Ouais.
Mais le vrai.
Mais moins d'une dizaine d'années, de toute façon, vraiment récent.
Et le vrai. Enfin, je dirais 4-5 ans où vraiment on a vu d'un seul coup, mais.
C'est vrai.
Mais
je
en
suis
fait,
entièrement d'accord.
Mais
avec
en
vous,
fait. Mais. Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Et en fait, mais il y a un patrimoine historique, mais en fait,
la Loire.
Voilà, la Loire qu'on a je pourrais presque dire découverte, et en tout cas redécouverte, et puis ce patrimoine historique, quoi, qui ressort, et puis le fait qu'on puisse maintenant se promener dans des rues qui sont attractives, qui sont, ça a été une révolution, vraiment, le plaisir d'aller boire un verre à Orléans le soir. Je me souviens de soirs de concert justement avec la chorale où on voulait aller boire un verre après ou manger quelque chose. Où, un dimanche soir, on s'est retrouvé place du Martroi. On regardait tout autour. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait personne, pas un chat. Et on se disait, on va où? Voilà quoi, c'était terriblement. Il y avait un ou deux endroits. On allait, et puis c'était toujours les mêmes, et c'était, en plus, le dimanche soir, de toute façon, le peu d'endroits qui existaient étaient fermés, il n'y avait pas de vie. Le soir, après 19h, les magasins étaient fermés, voilà, c'était terminé, on se retrouvait, il y avait deux personnes qui étaient dehors, c'était terrible. Et là, vraiment, l'évolution, elle a été... D'ailleurs, il n'y a qu'à sortir le soir pour voir la différence, hein, vraiment. Je me souviens que c'est très récent, là, au mois de mai. Un dimanche soir, mon mari me dit, est-ce que ça te dirait qu'on aille manger quelque chose? Et puis d'un seul coup, il me dit, oh mais non, je suis bête, c'est dimanche, tout est fermé. En fait, on a toujours cette... Et je lui dis, oh ben non, quand même, tu sais, ça a changé. Il y a des choses maintenant bon, qui changent de la pizzeria chaîne, ouverte toute l'année, évidemment, mais qu'on retrouve la même dans toutes les villes, quoi. Et finalement, on est quand même allé voir. Et ben oui, on a trouvé des restaurants ouverts. Mais il m'a dit, ah, mais t'as raison, ça. Ah, mais t'as raison, c'est vrai que oh, je reviens pas. Mais oui, quand même. Et là, c'est ouvert aussi. Et là aussi, ah, mais vraiment. Bon, voilà, c'est... Tout ça, il y avait du monde dehors, il y avait une animation. Alors que bon, il y a 15 ans, 10 ans, même l'été et même quand il faisait beau, bon, il y avait trois touristes qui prenaient la cathédrale en photo, quelques familles qui prenaient le chien ou les bébés dans les poussettes pour leur faire prendre l'air. Ouais. Mais pas pour dire on va se promener à Orléans.
Ouais.
Et ça a évolué vraiment. Nous, donc, ça fait, on peut dire, 30 ans. Plus de 30 ans même. Hein. Mais bon, l'évolution, elle n'est pas sur 30 ans. Hein. Elle est vraiment sur quelques années, là. Très rapprochée. Hein. Mm-hmm. Et puis aussi bien en matière de culture, de théâtre.
Est-ce qu'il y a des endroits, justement, culture, théâtre, que vous fréquentez en particulier, auxquels vous êtes attachée?
Le théâtre, oui. Ouais. Et puis nous, on va à des concerts, en fait. Donc, ça peut être l'Institut, ça peut être la cathédrale, ça peut être une église, ça peut être... Bon, là, c'est très varié, en fait. Ça dépend du programme du concert. Et pas de l'endroit.
Ouais.
Hein, donc, cinéma, un petit peu tout finalement.
Ouais.
Hein,
ouais.
En fonction des périodes et des envies et des sorties.
Et vous trouvez largement de quoi satisfaire
tout à fait.
Vos envies.
Pour nous, tout à fait. Oui. Aussi bien en matière de... Et puis bon, c'est pareil, les galeries. Avant, si on voulait voir un tableau, on allait au musée des Beaux-Arts. Puis voilà, ça s'arrêtait là à peu près. Hein. Et puis, il y a des tas de petits endroits qui se sont ouverts où on peut, juste comme ça, pour le plaisir, presque comme on fait du lèche-vitrine.
Au hasard d'une promenade.
Voilà, aller voir des petites choses. Et puis, des expos aussi à Saint-Pierre-le-Puellier, dans des endroits merveilleux comme ça. On trouve vraiment tout ce qu'on peut chercher. Aussi bien juste la promenade, parce que maintenant, on va se promener au bord de la Loire. Bon, voilà, il y a quelque chose. Hein. C'est le soir de la fête de la musique. on est arrivé par le côté de la rue des Carmes. Et puis, on s'est dit, oh, c'est bizarre. Alors, vers la place de Gaulle, Martroi. Mm-hmm. Et on s'est dit, oh, c'est bizarre, il y a moins de monde que d'habitude. Puis on a continué de se promener. Puis en fait, on s'est rendu compte, mais non, c'était pas ça du tout.
Ça s'était déplacé.
C'est qu'en fait, maintenant, il y a du monde partout.
Ouais.
Parce qu'avant, il y avait rien.
C'est ça.
Donc, qu'est-ce qu'on serait allé faire au bord de la Loire le soir de la fête de la musique, voir les voitures garées sur le quai. Enfin, voilà, c'était...
Ouais.
Alors que là, il y avait du monde, bien sûr. Il y avait du monde sur l'esplanade, là en face, les cinémas. Il y avait du monde au bord de la Loire. Et nous sommes même allés boire un verre sur le bateau. C'était magique, avec la lumière du pont Georges V. Il y avait de l'animation, il se passait quelque chose, quoi. Il y avait du monde partout, sur le quai même. Vraiment partout, des jeunes, des vieux, des enfants, des familles, des ados, enfin, on sentait vraiment, et il y avait du monde partout, surtout. Alors qu'avant, rue Jeanne d'Arc, on ne pouvait pas circuler, on ne pouvait même pas, c'était limite, on finissait par plus y aller,
parce que
bon, ça devenait presque désagréable, tellement il y avait de monde qui était agglutiné, à deux endroits, rue de la Rue Jeanne d'Arc, le Martroi, voilà, et puis le reste, il n'y avait rien. Et alors que là, bon, il y a une vie qui s'est installée, et puis qui, bon, ça draine tout autour, puis les gens en profitent pour. En plus, bon, on passe dans des rues, on voit des petites rues qui partent, piétonnent avec des jolies lumières, des atmosphères, on a envie d'aller voir. On se dit, ah, mais oui, mais tiens, là, effectivement, bon. Ça attire, alors que bon, avant, on risquait pas de mettre le nez dans ces petites rues où de toute façon on voyait absolument rien, il n'y avait pas de
C'est
lumière,
vrai.
c'était de toute façon laid, donc même s'il y avait eu de la lumière, on n'aurait pas eu envie d'y aller. Donc tout ça, c'est vraiment pour nous un élément très très important. Voilà.
Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup.
Bah, je
on
vous en
va,
prie.
On va arrêter l'entretien là. Merci pour
D'accord.
tout. Merci d'avoir pris le temps, parce que je vous ai pris beaucoup de temps du coup.
Oui, mais bon, je savais que je consacrais ce moment-là. Donc voilà, c'est. Moi, je me dis que ce sont des initiatives qui sont certainement très très porteuses de beaucoup plus de choses qu'on ne pense, et que si avec tout ça on fait quelque chose d'utile, et ben c'est bien.
Ben, merci beaucoup. Alors, je vais éteindre.